franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Autonomie. Vous aurez remarqué que ce terme revient fréquemment dans les propos échangés avec nos correspondants. Autonomie à ne pas confondre avec autarcie. Il n'est aucunement question de vivre replié sur soi, coupé du monde en autarcie, mais de répondre à ses besoins. Disons, pour être plus précis, aux besoins d'une collectivité, d'une communauté, en ayant recours à ses propres moyens. L'autonomie rejoint l'autosuffisance telle qu'elle est convoquée dans l'alimentation, telle qu'elle est suggérée par Pierre Rabhi lorsqu'il répond à l'agriculture intensive, seule garante, selon ses promoteurs, de nourrir l'humanité. À l'autonomie est associé un autre terme, la transition, le passage d'un état ancien à un état nouveau, transition énergétique, transition climatique, territoire et ville en transition. L'exemple le plus brillant, le plus complet des transitions assumées en France est donné par la commune du Haut-Rhin, Ungersheim. Nous avons déjà extrait de ce bourg des initiatives concrètes. C'est dans ce village, à 15 km de Mulhouse, que Marie-Monique Robin s'est rendue pendant un an avec son équipe de tournage. Vous l'avez entendu évoquer depuis quelques jours son film « Qu'est-ce qu'on attend ?» qui vient de sortir sur les écrans de cinéma. C'était l'occasion toute désignée pour inviter cette fille de paysan devenue documentariste, primée cette année par la SCAM, la Société des auteurs du réel, pour l'ensemble de son œuvre.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marie-Monique Robin, bonjour.
Bonjour.
Marie-Monique, réalisatrice d'un nouveau film, « Qu'est-ce qu'on attend ?» avec un point d'interrogation, pour être heureux d'abord, peut-être pour faire la fête après. Dans un premier temps, je voudrais qu'on revienne, vous qui êtes une réalisatrice engagée, le monde selon Monsanto, notre poison quotidien, la moisson du futur, terre souillée, on en revient d'ailleurs très souvent à la terre et à la situation agricole. Vous, fille de paysan, c'est à partir de la connaissance de l'histoire de vos parents que j'ai eu l'occasion de rencontrer, une remise de prix d'ailleurs à la SCAM, dans les Deux-Sèvres.
Voilà.
La petite fille a vu la réalité paysanne.
Oui, enfin, ça m'a marqué, ça c'est sûr. Hein. Mes parents étaient des militants de la jeunesse catholique. Hein. Ça ne dit pas grand-chose peut-être pour les urbains, mais pour les ruraux, dans les années 50 et 60, il y avait un mouvement qui s'appelait la JAC, qui était un mouvement très puissant et qui faisait que des jeunes ruraux revendiquaient la beauté du métier d'agriculteur, ce qui n'était pas évident, parce que souvent on disait que c'était des ploucs, vous savez. Hein. Voilà. Et qui disaient, nous voulons développer ce monde rural et être les acteurs de notre développement. Donc ça vous marque, hein, parce que quand vous avez des parents qui ont été engagés comme ça, j'ai beaucoup de respect pour la terre et ceux qui la travaillent. Parce que vous, Philippe, comme n'importe qui nous écoute en ce moment, s'il n'y a pas un agriculteur qui sème une graine dans la terre, ben, tout est foutu, il n'y a plus rien.
Sauf qu'aujourd'hui, très souvent, on sème une graine et autre chose avec.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéresse de très près de savoir qui contrôle les semences, par exemple. D'où mon intérêt pour ma multinationale préférée, qui est donc Monsanto. Mm-hmm. Mais aussi montrer les alternatives, c'était les moissons du futur. Ou Sacré Croissance aussi, hein, qui est mon dernier film et livre avant celui qui nous réunit aujourd'hui. Donc voilà, depuis quelques temps, j'ai aussi envie de montrer qu'il y a des alternatives à ce modèle très destructeur, finalement. Hein. Moi, je voyage beaucoup. J'ai vraiment... D'ailleurs, mon empreinte écologique, il faut dire les choses très clairement, est très très mauvaise à ce point de vue-là. Mais c'est pour la bonne cause. Donc. Mais je vois partout le réchauffement climatique à l'œuvre. Je vois aussi la pauvreté qui grandit un peu partout. Enfin, tous ces grands défis... qui sont en marche. Il va bien falloir trouver une solution pour les relever.
Absolument. Alors, en allant à Ungersheim, votre empreinte écologique là, a été réduite. Nous sommes à 15 km de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Cette petite ville de 2000 habitants fait parler d'elle parce qu'elle a pris toutes les alternatives en main possibles et imaginables.
Tout à fait. C'est un exemple unique. Alors, c'est vraiment une ironie de l'histoire parce que donc, moi, en 2014, j'ai un film qui est sorti sur Arte. C'était aussi un livre qui s'appelait « Sacré Croissance ». Où j'avais fait le tour du monde, Canada, Bhoutan, Népal, Danemark, Argentine, Brésil, montrant de belles initiatives de transition dans l'énergie, l'alimentation, les monnaies locales, etc. Et c'est lors d'une projection de mon film dans un festival à Tannes qu'un monsieur est venu me voir et m'a dit « Vous savez, tout ce que vous racontez dans votre film, nous le faisons déjà. » J'étais même un peu vexé, il faut dire carrément, parce qu'avoir fait le tour du monde pour finalement s'entendre dire que Il y avait tout dans cette commune d'Alsace, et c'est vrai.
Une explication quand même, Marie-Monique, sur cette petite ville d'Ungersheim, donc qui défend trois types d'autonomie. Autonomie énergétique, autonomie alimentaire et autonomie intellectuelle. C'est la première fois que j'entends parler de ce type d'autonomie.
Alors l'autonomie intellectuelle, ça conditionne en fait les deux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on essaie de se réunir et de passer par-dessus les différences qu'on peut avoir pour essayer de se rassembler et de penser ensemble, indépendamment de tout ce qu'on peut vous dire à l'extérieur. Et donc on se réunit et on met les cartes sur la table, quels sont les défis, on les décrit ensemble, et ensuite on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour, là où nous vivons, apporter des solutions. C'est ça l'autonomie intellectuelle. Et ça peut se faire à n'importe quel âge de la vie. On le voit dans le film, ça, dans une classe, ils ont appris l'autonomie intellectuelle, une classe d'élèves, hein, parce que l'école est associée au processus de transition. Et c'est au-delà des partis. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que si on veut faire face au réchauffement climatique, à la destruction de la biodiversité, vous avez vu le dernier rapport du WWF, n'est-ce pas ? Eh bien, il va falloir un nouveau paradigme économique, mais aussi politique. Je pense sincèrement. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on repense tout ça. Et il faut qu'on arrive à parler et à s'adresser à tous les humanistes, il y en a partout, qui ont envie que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent continuer à vivre dignement sur cette planète. Et ça, ce film est une belle démonstration de ça.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
À la bêche, c'est 1h15, 1h30, Laurent.
Oui, c'est ce que j'allais dire, tu viens à la maison avec la machine après.
Et là, la main, c'est pas pareil. Même pas 5 minutes. Ouais. Donc, faut se rendre compte de la capacité de travail, quoi. C'est quand même fabuleux.
Et puis, sans carbone, quoi. Sans pétrole.
C'est ça, avec du carbone, mais sans pétrole. Il va chercher le carbone dans l'herbe, en dehors de la clôture, et il le dépense ici.
Mais là, on est dans un cycle vertueux.
On est dans les circuits courts.
Circuits courts et vertueux.
Mètres. On peut pas faire mieux.
C'est pas un retour en arrière. Évidemment, on s'inspire de choses qui ont déjà été faites par le passé, puisqu'elles étaient efficaces et qu'elles le sont toujours aujourd'hui. En revanche, on n'est pas du tout en train d'essayer de montrer aux gens que c'était mieux avant. On pense à demain et on sait que demain peut être mieux qu'hier et mieux qu'aujourd'hui.
Extrait de Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin, invitée au Carnet de campagne. Avec là un exemple, Ungersheim, donc je rappelle le contexte, au Rhin, à 15 km de Mulhouse, ouais. 2000 habitants, il y a 1000 hectares de terres agricoles autour du village. Et le maire a dit, allez, on transforme tout ça, et ça va permettre d'alimenter la population.
Voilà, donc la transition alimentaire, donc hein, après l'autonomie intellectuelle, c'est l'autonomie alimentaire. Effectivement, Ungersheim, comme beaucoup de communes de France, mais aussi bien, enfin, villes et campagnes, hein, et bien, pour se nourrir, dépend du pétrole. Vous savez que l'autonomie alimentaire des villes, en ce moment, c'est 3 jours maximum. Donc, en fait, quand on mange, on contribue au réchauffement climatique. Aussi, quand on mange pas bio, en tout cas, et bio et local. Donc, il s'est dit, il faut qu'on mette en place, par exemple, une ferme urbaine. C'est un jardin de cocagne, confié à l'association ICAR, qui fait de la réinsertion, mais ils font aussi 500 paniers par semaine. Ils fournissent des aliments bio à la cantine bio, qui elle-même fait 500 repas pour la cantine de la commune, mais aussi 4 communes environnantes.
Et pour la restauration scolaire aussi.
Voilà, c'est ça. Donc il y a une régie aussi agricole. C'est ça l'autonomie alimentaire, c'est permettre à une population de tout un village de manger bio, local, en décarbonant du coup la consommation et la production des aliments. Je rappelle qu'on estime en Europe qu'un aliment acheté dans un supermarché, il parcourt en moyenne 3000 kilomètres entre le lieu de production et l'assiette du consommateur.
Je remarque une chose, Marie-Monique Robin, ce qui est souvent le cas dans les territoires de France, c'est à partir du moment où une collectivité fait des propositions aux activités citoyennes, exemple jardin de cocagne, c'est quand même un certain nombre d'hectares mis à disposition.
8 hectares
par la municipalité. C'est à partir de ce moment-là que ça fonctionne. Sinon, à chaque fois, effectivement, c'est une société civile, comme on l'appelle, qui se retrouve contrainte par des élus qui ne veulent pas garantir l'évolution de ces activités.
Voilà, le rôle de la mairie à Ungersheim, c'est ça qui est assez... Enfin, c'est une leçon qu'on peut tirer de ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent, vous voyez. Ils ont visé l'autonomie alimentaire, ok. Il y a des jardins de cocagne qui cherchent des terrains. C'est très difficile de trouver des terrains, parce que souvent les municipalités elles préfèrent vendre pour de la spéculation immobilière, construire, etc. Ben non, nous, ces 8 hectares, on les met à votre disposition, à l'association, et c'est à elles de se débrouiller, enfin, pour mener à bien cette... cette initiative.
Dans qu'est-ce qu'on attend ? On a cet exemple donc d'autonomie presque parfaite. Simplement, on ne voit pas le nombre d'habitants suivre ce mouvement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une majorité d'habitants suivant ce mouvement ou vraiment un petit groupe de personnes bien informées ?
Alors, dans le film, Jean-Claude Mensch, le maire, dit qu'il y a une cinquantaine de personnes qui s'engagent vraiment. Et puis, moi, à la fin, je lui ai dit, bon, je t'ai laissé dire ça, mais dans mon générique de fin, moi, j'ai 63 personnes qui parlent. Aux commissions participatives, parce que c'est de la démocratie participative, il y a 80 personnes qui sont là régulièrement. Moi, je dirais plutôt, et il en a convenu après, que c'est entre 100 et 150 personnes qui s'engagent véritablement. Donc, s'engager, ça veut dire, on passe un coup de fil, il faut ramasser les patates de la régie agricole, les gens sont dans les champs, prennent les bottes. Vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est pas uniquement des réunions. Donc, sur une commune de 1200 habitants, il y a la moitié au moins d'enfants, ça fait quand même entre 15 à 20% des adultes. Donc, c'est pas mal.
Ça ressemble un peu à un paradis, Ungersheim. Seulement, est-ce que ce modèle-là, parfait, enfin en tout cas, ce dispositif-là est transposable à une autre échelle, sur une plus grosse collectivité ?
Mais moi je pense que oui. Alors, vous savez, la nouvelle économie dont on a besoin, c'est une économie du soin. C'est ce qu'on appelle en anglais le care. Hein, prendre soin. Moi j'ai vu ça à Ungersheim. On prend soin des aliments parce qu'ils sont produits localement et même les enfants apprennent à les planter. Et le soin, c'est, ça serait le nouveau paradigme économique, hein, c'est-à-dire on prend soin des ressources, on ne gaspille plus, on prend soin des gens avec qui on vit. Ce paradigme-là, ce nouveau paradigme, peut être développé partout. L'essentiel, c'est de se rassembler, encore une fois, aussi bien dans des grandes villes. On peut imaginer qu'à Paris, Anne Hidalgo, qui a déjà d'ailleurs un programme d'agriculture urbaine, qui est très avancé, se dise « je vise ». Parce qu'on sera jamais, Paris ne sera jamais autonome du point de vue alimentaire, mais je vise l'autonomie alimentaire de la ville. Donc, je prends des décisions. Moi, j'ai vu à Toronto, on casse des parkings pour faire des jardins. Voilà, on produit sur les toits, on fait partout dans chaque arrondissement de Paris des jardins, des fermes urbaines. C'est tout à fait possible. Il faut une volonté politique.
Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Le film, dernier film en date de Marie-Monique Robin. Merci Marie-Monique.
Merci à vous.
Prochainement, nous consacrerons une émission au commerce équitable, mais auparavant, je vous signale les Assises nationales du commerce équitable en France qui se tiendront demain à Nogent-sur-Marne, dans un espace tout indiqué, c'est le jardin d'agronomie tropicale, plus précisément le pavillon Indochine. Plusieurs ateliers seront partagés entre les participants sur les expériences innovantes, les échanges de bonnes pratiques, par exemple, comment organiser une filière équitable, comment établir des prix rémunérateurs, comment sensibiliser les consommateurs. Il sera question aussi de la nouvelle réglementation en France et des labels appliqués aux filières française. Le détail du programme, c'est commerceéquitable.org. Et puis l'autre bonne nouvelle est justement l'appel à candidature pour le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires. Ce prix créé par la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur a pour objectif de récompenser les entreprises du secteur marchand, mais aussi les entreprises sociales et solidaires, ainsi que les écosystèmes territoriaux, privés ou publics, mais qui favorisent l'entrepreneuriat local. Pour sa 8e édition, ce prix retiendra le caractère innovant, performant de l'entreprise, ainsi que sa contribution à l'intérêt général. Le montant total des prix est de 30 000 euros, et ceux-ci seront remis le 7 juin 2017. En revanche, le dépôt des candidatures est arrêté au 10 janvier, donc il vous reste un petit mois pour participer et déposer votre candidature. Vous allez trouver un lien sur notre page d'émission franceinter.fr.